à toutes et à tous, c'est Empreinte sur IDFM Radio, à la réalisation aujourd'hui, Francky, merci et bonjour Francky. J'ai une invitée, je suis vraiment très heureux, je dis souvent que je suis heureux parce qu'en général je suis heureux de recevoir des musiciens, mais là, parce que c'est une vraie découverte, et je pense que ça va être une découverte, mais pas pour longtemps pour nous en France, elle s'appelle Jean-Cyan MG. L'album vient de sortir, il s'appelle Walls Made of Glass, qui veut dire les murs en verre. On en parlera parce que moi j'y vois un petit peu deux sens ou plusieurs sens, mais bon, peu importe, c'est peut-être moi. Vous êtes passé, vous avez fait un concert, votre premier concert au Sunside le 20 octobre. C'était bien, c'était plein.
Oui, c'était super. On avait une belle salle avec une très très bonne écoute. Les gens fermaient les yeux, puis il y avait un bel échange.
C'est vrai que ça c'est presque aussi plus impressionnant dans des salles plus grandes. On va en parler, mais c'est super. Et puis, vous avez fait, bien sûr, du 23, 25, mes lunettes, il faudrait que je m'en achète, moi aussi. Du 23 septembre au 9 octobre, vous avez fait, bien sûr, une tournée formidable au Canada. Je suis au Canada parce que vous avez fait Montréal, Québec, bon d'accord, mais Vancouver, voilà. Edmonton, Calgary, Saskatoon, Ottawa, j'en passe, et des meilleurs. C'est pas bien, vous avez été à Waterloo. Je plaisante. vous êtes content, ça c'était bien cette tournée.
C'était vraiment super. En fait, de voir l'immensité de mon propre pays. Premièrement, Canada étant tellement immense, mais ça a été vraiment super de partager cette musique-là après avoir été quand même longtemps pour cet album-là. Je dirais un bon 2-3 ans là, en création.
J'ai l'impression qu'il a bien maturé, ouais. On va parler du trio qui vous accompagne parce que vous les connaissez depuis des années. Et en fait, votre travail par rapport au dernier album a énormément évolué avec eux. Et là, vous avez formé un trio complètement qui marche très bien ensemble. Mais cet album ne pouvait pas se faire sans d'abord du temps et puis une véritable complicité,
oui,
avec les musiciens qui vous accompagnent. Alors, Walls Made of Glass, juste quelques mots sur vous. Donc, vous avez fait le conservatoire, piano classique, j'allais dire, à Saguenay, au Québec. Après, vous êtes dirigé vers le jazz.
Oui.
Après, vous avez formé votre trio, c'est assez récent, mais c'est quand même, voilà, en 2014, avec donc le contrebassiste Levi Dover et le batteur Louis-Vincent Hamel, qui sont apparemment des pointures, on les entend d'ailleurs, bon, ils le sont, mais on les connaît pas encore, pardon, mais ça ne saurait tarder. Et puis, vous êtes, je le disais, sur cet album, finalement, vous avez, à vous tous, développé le langage que vous vouliez par rapport à cet album.
Oui.
Alors, cet album, Jean-Cyan, c'est votre prénom, Jean-Cyan ?
Oui, c'est mon prénom.
C'est vraiment un joli prénom. Il n'y a qu'au Canada qu'on voit ça, ou dans nous. Je ne sais pas, je ne connais pas de Jean-Cyan et j'y aurais même pas pensé.
Mais vous, moi non plus.
Bah oui, C'est-à-dire, pour vous, ça a été carrément la surprise.
Oui.
Mais il y en a beaucoup.
Non, mais c'est ça. Non, c'est un nom assez peu commun. Au Canada, en fait, en France, j'ai une meilleure expérience avec ce prénom qui est rare, mais les gens connaissent la plante.
Ben oui, c'est ça.
Oui,
le
voilà.
Le problème, c'est qu'on pense tout de suite à la plante, à la liqueur, à la tisane, enfin bref, à tout ce qu'on peut faire avec la gentiane. Mais le fait de dire, c'est un prénom qui est très doux, en fait, qui est très qui est très agréable à dire. Quand même plus intéressant que d'appeler sa fille Rose ou Lila. Donc, il y en a eu quelques-unes aussi. Alors, c'est 10 morceaux qui composent cet album, puisque vous faites toutes les compositions au piano.
Oui.
Bien évidemment. Donc ça commence. C'est amusant, comme un peu comme une pièce de théâtre ou comme avec un prologue qu'on va écouter tout de suite et un épilogue qui clôt. Et là, c'est vachement bien parce que finalement, ça s'inscrit parfaitement dans quelque chose qui démarre toute une aventure, tout un voyage, tout un tas de choses comme ça et qui se termine. Enfin, ou que vous terminé comme ça. Alors, on va parler des titres. On va écouter tout de suite, parce qu'on est en train de parler. Ce serait bien que nos auditeurs et auditrices, même ceux qui sont venus, d'ailleurs, a fortiori, vous écoutent. Donc, c'est tiré de l'album Walls Made of Glass et Jean-Cyan MG. Et c'est donc le prologue, tout simplement.
«
Alors, c'est un prologue, et donc vous êtes seul au piano.
Oui.
Et le dernier morceau, vous serez seul aussi. Alors, il y a d'autres morceaux que vous improvisez aussi, et qu'il faudra écouter sur l'album. C'est très... Est-ce que ce prologue nous met bien dans l'ambiance de ce qu'on va entendre après?
Ben, c'est vraiment... Je trouvais ça intéressant, parce que tout l'album est en trio. Avec, c'est vraiment un album en... Bon, c'est mes compositions, mais lorsqu'on entend la musique... Je dirais pas qu'il y a un instrument qui prédomine plus que les autres, là, conceptuellement. Mais je trouvais ça intéressant d'entrer avec juste le piano puis de sortir avec juste le piano parce que pour moi, c'était comme un peu un entrée dans un univers, tu sais, comme,
bien sûr.
Dans le silence, puis on entend comme des petites voix, un genre d'écho.
C'est très intime, en plus. Un genre effectivement. Ouais. Alors après, c'est vrai que ça va quand même, ça va bouger pas mal, ça va devenir, grâce à la rythmique d'ailleurs, beaucoup plus, voilà, et la contrebasse, mais il y a une alternance en fonction des titres, en fonction de ce que vous avez composé, entre ce qui est quelque chose de plus peaceful, de plus calme, et puis des choses un peu plus énervées, nous on dirait. Ouais. On dirait.
Il y a beaucoup de dynamiques. Mais cet album-là aussi est écrit...
C'est des états d'âme, ça? Ou est-ce que...
Oui, oui, ben, je pense que j'aime ça. Ben, probablement, cet album-là a été composé dans une période, disons, de silence, là, si je me remémore. Donc, c'est sûr que le silence est inhérent là-dedans, donc les moments très calmes, puis très avec beaucoup d'espace, puis la référence au temps. Puis ensuite, ben, il y a aussi... c'était exprimer des moments un peu difficiles à... Des moments difficiles à attraper, mais comme... qui avait des charges émotives ou des charges très fortes, donc d'où les montagnes russes d'intensité là tout au long de l'album.
Quand vous êtes dans des petites salles ou même peut-être des plus grandes, est-ce que vous sentez le rapport avec le public, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous de votre état aussi d'ailleurs, mais il y a des choses qui on sent des choses. Comme ça, qui passe plus ou moins. Vous en parliez tout à l'heure de l'écoute, effectivement. Je pense que c'est normal à certains moments de fermer les yeux. D'ailleurs, il vaudrait mieux à certains moments écouter la musique les yeux fermés. C'est tout à fait vrai. Parce que là, du coup, on a vraiment des images qui vous viennent. Alors, parlons d'images et parlons de couleurs, parce que vous avez à côté, on peut se procurer l'album, le livre.
Oui, tout à fait. C'est sur mon site, www.jeansianemg.com.
Ok. C'est magnifique, parce qu'on y trouve évidemment des notes de musique, des partitions, mais on y trouve aussi des peintures. Donc, pour parler justement de cette palette de couleurs dont on parle tout le temps, vous savez de quoi vous parlez, puisque vous êtes peintre.
Oui, mais c'est intéressant pour moi moi je vois la musique un peu comme un médium. Fait que ça soit des mots, des pinceaux, ça revient tout à exprimer une émotion ou une image mais l'émotion vient pas forcément de quelque chose de la vie. Quand je composais la musique, je me suis rendu compte que j'avais des images imprégnées dans ma tête et souvent aussi c'est que je compose, je vais composer un peu au piano, mais après cette musique-là a beaucoup mûri en dehors de l'instrument, en marchant dehors, en me levant le matin, j'ai beaucoup vécu avec dans tous les moments de la vie, puis chaque morceau a vraiment pris naissance dans un moment un peu extérieur à moi, tu sais, soit une phrase que j'ai lue, un moment que j'ai vu quelque chose de magnifique pendant 5 minutes ou des choses comme ça. Donc, particulièrement cette musique-là, plus que d'autres albums, a vraiment pris naissance dans des inspirations de la sorte, ce qui fait que une fois que j'avais la musique de composer, mais j'avais encore ces images-là dans ma tête, il fallait qu'ils sortent.
Alors, l'ancienne, par exemple, comme des écrivains qui, pendant 2 mois ou des années ou pas, ont des petits carnets, ont des trucs où ils notent des mots, des expressions, des choses qu'ils voient même à l'extérieur. Est-ce que vous avez, vous aussi, j'allais dire, tout simplement, mis sur un papier un truc en par rapport à la chanson, une ou des touches de couleur?
Ça a été deux processus séparés, sauf que pendant que j'écris la musique, j'ai vraiment ces images-là en tête. Donc, sont pas nécessairement exprimées sur la partition de musique. mais ils font vraiment partie du schéma. Tu sais, même la manière que j'ai que je vais faire les brouillons. D'accord. Si vous voyez mes brouillons, ça, ouais, ils ressemblent à des croquis. Tu sais, ouais, c'est très ça. C'est très graphique.
Non, là, mais c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et vous composez bien sûr au piano.
Oui, pas... au piano et dans ma tête, là, beaucoup.
Ouais, c'est-à-dire que vous entendez des choses dans votre tête. Moi, je me pose toujours la question, parce que je me demandais, est-ce qu'on entend ce qu'on peut composer? Parce que si on se met au piano, effectivement, il y a des choses qui viennent. On peut avoir un prolongement, mais est-ce que dans le silence, etc., à un moment donné, on entend des notes ou un début de quelque chose qui peut devenir une mélodie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on entend à l'intérieur de soi?
Oui, tout à fait. Des fois, je vais entendre des choses plus précises. Des fois, c'est plus des idées générales. Donc, ça dépend. Mais oui, tout à fait, on peut marcher dans la rue puis entendre une mélodie. Ou souvent, c'est ça. Ça m'arrive souvent aussi que j'ai quelque chose qui m'inspire de la vie, qui n'a pas rapport avec la musique. Et là, je vais me dire, quel genre de morceau musical qui exprimerait bien
ça? Comment le traduire?
Avec ça? Puis ça va comme partir de quelque chose de... un peu comme une peinture. Tu sais, on se fait souvent dire, si on dessine un paysage, par exemple, on va pas mettre toutes les couleurs foncées tout de suite, on va faire tout le paysage, tu sais, puis préciser à mesure.
Et est-ce que du coup, suivant les chansons, les couleurs... que vous avez vu, qui vous permettent de composer, que nous on peut ressentir, sont froides ou chaudes en fonction des ce qu'on appelle les couleurs froides, comme le bleu, le vert, etc., ou chaudes comme des jaunes, des trucs. Est-ce que c'est un...
Je pense que c'est vraiment un mix, mais j'aime beaucoup.
C'est très mélangé, oui.
Mais comme dans la musique, j'aime beaucoup jouer avec les contrastes. Donc, tu sais, par exemple, il y a une des peintures que c'est ça décrit un moment très morne et gris, où je marchais dans un sentier. C'était l'automne, il pleuvait, c'était pas une bonne période, mettons, de vie. Et là, j'arrive au bout du sentier, et il y a des centaines de mésanges qui viennent sur mes épaules et qui chantent partout. C'était comme un moment tellement féerique. Et la peinture traduit un peu ça, fait qu'il y a vraiment... C'est sur fond très gris, puis là, il y a la...
C'est du pastel, en fait?
Ça, c'est du...
Pas forcément celui que j'ai là, mais j'en ai vu un.
Je crois que c'est du pastel, celui-là. Ouais.
Non, parce que j'en ai vu un ou deux qui... Voilà, ça, c'est du pastel, ce qu'on appelle du...
Ça, je crois que c'est de l'aquarelle, celui-là. Oui.
C'est de l'aquarelle.
Donc, je me suis beaucoup amusée.
Comme dirait Proust, aquarelle, les jeunes filles.
Mais fait qu'on a vraiment toujours la rencontre entre les tensions, résolutions, couleurs vives, couleurs froides, disons.
C'est très bien mélangé, mais c'est effectivement ça qui se passe en général dans notre tête, c'est ça. Et donc, il n'y a pas besoin de faire un choix. Mais par contre, comme votre façon de jouer, il y a quelque chose de très harmonieux et de très mélodique dans vos peintures. C'est pas des choses violentes, c'est pas des... voilà. Alors, peut-être que tout ceci s'explique par votre... On va en parler, on va écouter un titre, mais on va en parler après. Votre rapport à la nature et à ce qui est plus contemplatif, plus zen, on va dire, ou plus... On va en parler.
Tout à fait, oui.
Donc, le titre numéro 3, c'est « Walls Made of Glass », qui est justement le titre de l'album. On l'écoute tout de suite. Thank you. le titre Walls Made of Glass, autrement dit, les murs non traduits, les murs en verre ou les murs de verre. Alors justement, est-ce que le fait d'avoir appelé cet album et qu'il y ait cette chanson sur les murs en verre, est-ce qu'il y a plusieurs explications ? C'est-à-dire, est-ce que c'est, on peut voir, on donne la possibilité de voir à travers ces murs, mm-hmm. c'est-à-dire que c'est pas complètement fermé. En même temps, il y a une fragilité du verre. Est-ce qu'il y a un peu de tout ça ou
oui,
d'autres choses ?
Tout à fait. Ben il y a ça, puis je voyais aussi beaucoup des murs comme les murs extérieurs, les murs intérieurs, disons de et le fait que pour moi quand je pense au verre, je pense beaucoup à la lumière qui se reflète. Ah. Et ça, c'est un truc que j'ai dans ma tête aussi, mais chez nous, il y a beaucoup de français et anglais. Le mot « glace », donc « glace » en français, c'est aussi de la glace, donc quelque chose de froid, mais qui reflète la lumière. En tout cas, il y avait beaucoup d'éléments qui se rejoignaient avec le vin.
Il y a une chanson célèbre qui était « Heart of Glass », enfin, il y en a comme ça. Mais oui, c'est très beau. Et c'est vrai que ça rejoint... Alors, on parle des couleurs, Dieu sait qu'il y en a. J'ai dit que pour l'instant, elles ressemblaient beaucoup à vos peintures, c'est-à-dire là aussi dans une espèce de douceur et de choses apaisées, même si quelquefois c'est un peu plus énervé, entre guillemets. Mais on bougeait beaucoup sur ce qu'on appelle le clair-obscur, finalement, ou le contraste et l'équilibre entre la lune et le soleil, par exemple. Enfin, mm-hmm. ça rejoint ça.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'était vraiment comme un, cet album-là, pour moi, c'était un effort, littéralement un effort conscient d'aller... bon, on se le cachera pas, là, ça a été composé pendant la pandémie. Bon, j'aime pas trop parler de pandémie parce que c'est plate.
Ouais, mais enfin, bon.
Mais bon, c'est comme ça. Mais ça a vraiment été un effort conscient. Ben, premièrement, il y a deux choses qui en sont sorties. C'est le besoin de partager avec des humains, c'est le côté humain de la création que des fois on oublie, tu sais, on fait ça, c'est beaucoup en solitaire chez nous, fait qu'on est dans notre bulle, mais le côté de ok, je fais ça bon pour l'art et pour, mais ultimement c'est pour partager à des gens que ça, donc il y a eu un peu un effort conscient d'aller chercher des inspirations dans du côté clair plus que du côté obscur.
Et après on a besoin de rencontrer les gens. Est-ce que vous arriviez à travailler sur ordinateur à travers pendant cette période de confinement avec vos musiciens? Parce que là vous aviez toujours plus ou moins un contact qui faisait que vous pouviez échanger, voir.
On a eu la chance d'avoir quelques périodes, là, par exemple une résidence de création, où on n'aurait pas eu le droit de se rencontrer à la maison, mais on avait le droit d'aller dans un établissement réglementé pendant une semaine pour travailler la musique ensemble,
ah, c'est étonnant,
des choses
ça.
Comme ça.
Comment ouais. ça se fait, ça, cette différence entre...
Parce que chez nous, il y avait beaucoup... il y avait des drôles de règlements, mais pendant longtemps, on n'avait pas le droit de voir les gens, là, mais on avait le droit, si c'était pour travailler. Si c'était pour travailler, donc si on est chez nous, en principe, on travaille pas.
Oui,
si on est dans un établissement, on travaille. Donc ça, il y avait comme
tout le monde s'y est mis. Alors ça a créé un autre problème, ce confinement qui a été en plusieurs étapes. Enfin chez nous, oui. Très mal géré en plus, etc. C'est que les gens, moi j'ai perdu la notion du temps à un certain moment.
Oh, complètement.
J'avais plus envie de lire, j'avais plus envie de rien en plus. Enfin je veux dire, c'était une espèce de sortez faire mes courses parce qu'il n'était pas question de ne rien faire.
Mm-hmm.
J'ai jamais noté l'heure. Bon, on devait dire que on avait le droit de sortir un quart d'heure, une demi-heure pour aller là ou là. C'était, enfin bon, ça, moi j'ai un peu refusé ça, mais je suis dans un quartier qui est assez bourgeois et qui est donc pas trop trop fliqué là-dessus. Mais j'allais dire, mon côté rebelle, etc., faisait que j'ai largement dépassé, que j'allais me balader, etc. J'avais le masque, voilà. Mais voilà, parce que si on reste chez soi, on devient dingue, quoi. Il y a des couples, il y a des enfants, il y a des trucs, il y a des gens, des choses qui ont explosé parce que les intérieurs sont pas toujours suffisamment grands pour qu'on puisse tout gérer.
Ouais,
les enfants d'à côté, le mari qui est confiné aussi, soi qui est truc,
ouais.
On devient fou, quoi.
Et c'est là qu'on se rend compte aussi que sans l'art, disons, sans les sorties, sans ce contact-là, c'est un peu triste. Donc,
et les gens sont bien revenus facilement au spectacle au Québec, parce que chez nous,
c'est
toujours très difficile. Hein.
Ah oui, hein?
Ah ouais.
C'est dur, on réapprend petit à petit, tu sais, il y a certaines choses qui ont changé, comme des concerts qui sont moins longs, ça finit plus tôt, il y a plusieurs choses, mais je sens que dans les concerts, au moment où, en tout cas pour ceux qui sont là, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de plus spirituel qu'avant, je ne sais pas, il y a vraiment un échange, on sent que...
Je pense que ça c'est la musique ancienne, parce que du coup effectivement au niveau du jazz, au niveau des concerts, etc., c'est plein, enfin, c'est-à-dire que là les gens se sont précipités, alors que le reste des salles de cinéma, les salles de théâtre, c'est beaucoup plus catastrophique.
Ah oui, hein, peut-être à cause de Netflix.
Et du coup, alors, bah voilà, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est confiné? Bon, on va prendre son abonnement sur machin, et on prend l'habitude, finalement, de chez soi, quoi.
Mm-hmm. Oui, oui, oui.
Non, et donc, c'est ressortir après un confinement, après des périodes, c'est effectivement, c'est tout un effort, quoi. C'est très difficile. Il faut absolument se pousser. Mais il faut le faire, parce que sinon, je veux dire, enfin, on meurt, quoi.
Oui.
Mais je me rends bien compte, moi, qui sortais tout le temps... tout le temps, depuis des années, etc. Bon, alors, je choisis, je me repose un peu plus, j'y vais moins, par choix, etc. Mais il y a des moments où il faut que je me pousse.
Mm-hmm. Ouais, c'est fou, on prend
c'est incroyable, hein.
Ouais, incroyable, tout à fait.
Bon, ben voilà, on prend des habitudes comme ça. Alors, par exemple, on va pas écouter maintenant, mais The Moon, The Sun and The Truth, c'est-à-dire la lune, le soleil, la vérité.
Oui.
Ça se rejoint. Elle a été composée dans comment, j'allais dire, enfin très simplement, hein, pas.
Oui, ça a été la pièce en tant que telle, c'est vraiment je voulais exprimer les trois éléments, qu'est-ce qu'ils représentent l'un contre l'autre. Donc la lune pour moi qui est un peu comme paisible, un genre de clair obscur apaisant, disons, le soleil qui est presque trop brillant là, puis la vérité qui peine à ressortir, mais qui est comme toujours là, puis qui veut. Donc, la pièce est très intense, parce que ça représente un peu peut-être c'est quelque chose d'introspectif, là, mais l'idée de la vérité intérieure qu'on peine à retrouver,
ça veut dire aussi
parfois.
Que la vérité, oui, c'est ça. Elle est un peu, elle aussi, entre lune et soleil, et
oui.
Il faut trouver, lui favoriser le moment où elle peut.
Oui.
Elle peut éventuellement sortir.
Puis en fait, ça vient d'une phrase aussi de Bouddha qui disait qu'il y a trois choses qu'on peut pas cacher très longtemps. Et c'est ces trois choses. Trois choses. Three things cannot remain hidden for very long, and these three things are the moon, the sun, and the truth.
Vous avez plus ou moins suivi ou lu des livres par rapport à la philosophie bouddhiste ou pas?
Oui, en fait, j'ai lu un livre, c'est une grosse brique, mais sur des écrits bouddhistes de plusieurs, de différents pays. Il y en avait de la Chine, de
D'accord.
l'Inde, de je pas j'ai pas de d'allégeance.
Non, mais tous les sages, on va dire, de ces pays-là.
De voir aussi des textes si vieux, tu sais, puis de voir d'où cette culture-là.
Bon, ça a pas tellement bougé. Je veux dire, depuis Aristote et les philosophes grecs, etc. Quand on les relit là, ça colle complètement. Vous connaissez le Livre des Morts?
Okay. Non.
Le grand livre. Ah.
Mais je vais aller regarder ça de.
Je crois que ça s'appelle Le Grand Livre des Morts Tibétains. C'est extraordinaire parce que c'est pas du tout bon sur la bande plage. C'est pas du tout attristant, etc. C'est quelque chose qui vous élève plutôt qu'autre chose.
Wow.
Ça, vous devez absolument lire Le Grand Livre des Morts. Je crois que c'est peut-être rajouté tibétain ou pas, mais c'est Le Grand Livre des Morts. C'est archi connu. C'est une bible. C'est voilà. Mais ça peut vous passionner.
Ça va être mon prochain album.
Eh ben, pourquoi pas?
Oui.
Ça peut inspirer. Moi, je prends 10%, je suis pas très cher. Hein, on s'arrangera. Les mésanges, pourquoi les mésanges? C'est un oiseau particulier, la mésange?
Oui, c'est ça, c'est les oiseaux que ça représente vraiment. C'est un moment que j'ai vécu avec des mésanges qui sont sortis d'un arbre, et des mésanges sauvages.
C'est génial.
Ils sont venus se poser sur mes bras,
c'est
mes
génial.
Mains. Puis en fait, c'est vraiment drôle. C'est ma mère qui m'avait dit, oh, veux-tu venir voir les mésanges? Mais ma mère est très modeste. Donc, elle me dit ça tout bonnement. Moi, je m'imaginais, bon, on va aller voir une mésange. Elle m'avait pas dit que les mésanges, ils faisaient ça. Donc, on arrive, puis c'était tellement
féerique.
Encore aujourd'hui, je me dis, est-ce que ça s'est passé?
Mais vous êtes assis sous l'arbre, du coup? Enfin, comme vous êtes resté...
Oui, j'arrive à l'arbre, puis là, les mésanges y sortent, puis partout. Ouais. Donc, c'est vraiment donc mésanges, voilà. T'sais.
C'est extraordinaire. Ouais, c'est vrai que c'est une expérience. On peut se demander si on a rêvé ou pas.
Puis l'expérience est encore plus extraordinaire, étant donné du contraste de la journée grise et tout ça. Donc, il y a vraiment comme une rencontre de... tu sais, l'inspiration pour moi, c'est ça, là, c'est comme la rencontre de deux éléments opposés qui, ça fait comme une explosion, là, à
ouais,
ce moment-là.
Ouais, ouais.
Et là, ça a donné Mes anges.
Ouais. Alors, le titre d'après, vous irez l'écouter parce qu'on peut les enchaîner très bien. C'est un pied en dehors, oui. En dehors du nid. Là aussi, il y a un autre sens où il y a, voilà. Mais, alors, quand même, il y a un titre qui s'appelle Contemplating Joy, c'est-à-dire contempler la joie. C'est-à-dire que vous êtes pas quelqu'un de pessimiste, en fait.
Non.
Pas fondamentalement, enfin.
Non, je pense que je suis assez optimiste, mais j'ai mon côté aussi plus sombre. Mais
sûr.
Je pense qu'à travers. En fait, c'est intéressant parce que, originalement, pendant longtemps, pour moi, la musique, ça me permettait de vivre mon côté sombre, un peu. Et là, je pense que, étant donné que le monde, disons, pendant ce temps-là, était un peu sombre, ça m'a comme forcé à faire le contraire, à vraiment aller chercher le côté lumineux à travers la musique. Donc, cet album-là, c'était vraiment un choix d'aller vers l'optimisme extérieur, disons. Donc, contempler la joie, c'est l'idée aussi. J'ai beaucoup l'image à travers ma fenêtre, donc il ramène aussi les murs en verre, mais comme juste regarder l'air.
Vous donnez sur la campagne plutôt ou
sur une petite rue tranquille.
C'est agréable. On va l'écouter tout de suite. D'ailleurs, c'était prévu. Un pied en dehors du nid. On vous écoute tout de suite sur IDFM dans Empreinte. Voilà, c'était justement un pied en dehors du nid. Bon, je sais pas si vous, c'est que je vous avais ressenti ou pas, mais en tous les cas, c'est comme ça. L'album s'appelle Walls Made of Glass. Je suis toujours avec Jean-Cyan MG dans Empreinte sur IDFM Radio. Il y a quelque chose qui m'a interpellé. Je sais pas si c'est indiscret ou pas. Jean-Cyan, moi, c'était évident que c'était votre nom, mais MG.
MG, c'est mon nom de famille. C'est Michaud Gagnon.
D'accord.
Bah... C'est la mode. Je sais pas, c'est ici, mais chez nous, il y avait pendant beaucoup d'années, on donnait deux noms de famille.
Ah bon.
C'est un peu long. Et surtout que j'appelle toujours mon prénom.
Bah oui.
J'avais pas envie d'appeler deux noms en plus.
Non, mais c'est bien, je trouve.
Donc MG, voilà.
C'est très bien, puis ça va très bien. Un petit côté mystérieux. Et en même temps, je trouve que ça fait un titre. C'est court, c'est bref, et puis on retient Jean-Cyan, et puis voilà. Mm-hmm. C'est le principal. Non, c'est une belle idée. Parlons un peu de ce trio de musiciens que vous connaissez depuis longtemps, avec qui vous avez travaillé, contrebassiste extraordinaire, le batteur également. Et on sent bien, alors je ne sais pas comment c'était avant, mais il est clair que tout le travail que vous avez fait pendant un certain nombre de mois, voire plus, ensemble, a amené à cette osmose, à ces compositions où du coup tout le monde était à l'unisson.
Tout à fait, oui. En fait, ça a été un long. Ben, c'est sûr que de jouer pendant longtemps, ça fait même que moi, quand je compose les morceaux, j'entends le son de ces musiciens-là. Je sais, si je donne cette section-là de solo pour la contrebasse, ça va donner un peu. Donc, je peux presque prévoir. Puis, donc, il y a cet élément-là. Ensuite, c'est sûr, dans les compositions elles-mêmes, j'avais vraiment envie de laisser plus d'espace dans cette musique-là.
Oui.
Vraiment comme, il y a des moments très écrits, donc un peu, je vais aller rechercher les couleurs, orchestration classique avec des bons pianistiques et tout ça. Mais aussi vraiment, je vais aller chercher assez de liberté pour que Liva et Louis-Vincent puissent vraiment s'exprimer librement. Donc, il y a ça. Et aussi, on a eu la chance, à travers le processus, de vraiment travailler ensemble. Donc, il y a vraiment eu une étape où j'ai apporté des propositions, des compositions. Et là, on a travaillé ensemble, puis on a, par exemple, j'ai demandé leur opinion sur certaines choses. Et peut-être ça. Là, ils ont vraiment donné beaucoup de suggestions. C'est deux musiciens extraordinaires, puis c'est aussi deux compositeurs. Ils ont chacun leur projet.
Ouais.
Levi a son projet, un sextet pour lequel il écrit Imaginary Structures. Donc, c'est vraiment des musiciens complets qui ont beaucoup de choses à donner. Donc tout ça, ben ça l'a finalement donné un album, je pense, qui est assez... les gens me disent beaucoup, est-ce qu'il y avait de l'improvisation? On sait pas nécessairement sont où les solos si on n'est pas nécessairement bon.
Ouais, et en même temps, on sent bien, alors derrière la base classique qui, pour moi, est indispensable pour tout musicien. Mais on le ressent plus ou moins. Et là, dans vos compositions qui sont extrêmement personnelles et qui prennent leur envol, je veux dire, c'est clair, quoi. C'est pas, c'est structuré.
Oui.
C'est très structuré. Alors, c'est votre troisième album. Le premier, je vais aller l'écouter parce que je ne l'ai pas écouté, qui s'appelle Eternal Cycle, le cycle éternel, et en 2017, mm-hmm. a eu plein de prix. Il a été classé dans les meilleurs albums de jazz. Voilà. Il y a eu en 2019, ça me plaît bien, Wonderland. Pense un peu à Alice. C'est Jean-Cyan in Wonderland, on va dire. Non, ça s'appelle Wonderland. Et donc ce dernier qui est Walls Made of Glass. Donc ils sont le 1 et le 2. Déjà le 2 était un peu différent par rapport au premier où il était très proche. Et c'est celui-là qui amène un véritable changement ou une rupture en tous les cas peut-être.
Un peu les deux, je dirais que ma réflexion par rapport aux deux premiers, c'est qu'il y avait, ben, je pense que c'est comme cyclique là, les périodes. C'est chaque, bon, premièrement, chaque album est un peu une documentation d'une époque de notre vie. Le premier album, il y avait quelque chose de très frais, de très spontané. Deuxième album, mais là c'était bon, c'est ça, on veut aller chercher d'autres choses, donc c'était plus réfléchi, plus recherché, plus travaillé.
Ouais.
Puis après coup, j'avais envie de un peu d'aller chercher les deux côtés, mais de retrouver aussi le côté spontané volontairement. Disons,
mais ça, c'est important, et probablement que toute votre démarche est par rapport à la nature par rapport à ce qui est contemplatif, etc., qui n'est pas du tout, enfin apparemment, je veux dire, une religion qui vous, des choses qui vous enferment, qui sont plutôt des ouvertures, ouais. Contrairement à certains, je vais pas me faire des amis, mais certains que j'appelle les faux écologistes, parce que qu'est-ce qu'on entend comme bêtise là-dessus, et c'est dément, quoi, parce que les gens voient ça sur les réseaux, ils écoutent ça, ils répètent ça, etc. C'est dément. Allez écouter plutôt Greta Thunberg. Enfin, je veux dire que on en pense qu'on en veut, mais pour l'instant, elle domine son sujet. Incroyable. Elle a à la fois cette fraîcheur et cette connaissance des choses. Elle a pas la trouille d'aller parler dans les instants. Je crois qu'elle a lancé vraiment des bombes qui là sont vraiment bénéfiques. Après chacun à notre niveau, on peut faire des choses. Mm-hmm. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ou malheureusement, c'est aux politiques de prendre le relais. Or, c'est il limité. Ne le prend pas. Je sais pas comment c'est au Canada.
C'est pas évident, mais on a toujours l'art pour rêver.
Non, mais vous avez probablement un rapport à la nature qui est peut-être plus. Bon, j'en sais rien, plus proche que nous. J'en sais rien. Je connais
peut-être,
pas suffisamment.
Ben, au niveau des, vous seriez surpris, les gens, peut-être, mais au niveau des politiques, c'est.
Non, mais ça.
Toujours la même chose, hein.
Entre les Trudeau, Périfice, machin, etc.
On
croit toujours que c'est la panacée, mais c'est.
Voilà.
Alors, nous, on connaît, merci, je veux dire, et on a du mal à s'en sortir. L'Italie, ça va pas bien pour l'instant. Toute l'Europe de l'Est est passée à l'extrême droite. Ouais. C'est quand même.
Sans
c'est
avoir une certaine tendance mondiale.
C'est catastrophique.
Oui.
Catastrophique. Il y a une époque où toute l'Europe était à gauche et où, quand même, honnêtement, il faut reconnaître que ça allait beaucoup mieux, et dans les échanges et dans ce qui était fait au niveau des gens surtout. Mm-hmm. Parce que nous, en tous les cas, on a tout déconstruit, on privatise tout. L'école, l'université, tout, c'est extrêmement grave. Oui. La santé, enfin, on est en train de tout foutre en l'air.
Oui.
Et ils compensent pour l'instant par réinjecter de l'argent parce que les gens n'en peuvent plus. Mais ça ne peut pas durer infiniment.
Mm-hmm.
On va être en cessation de paiement, je ne sais pas ce qu'on va faire. Là, ça a augmenté dans les supermarchés, etc., de 12 à 30% suivant les produits. Ce qui est considérable, puisque les gens gagnent moins d'argent qu'avant.
Bon, ouais, c'est
je referme la parenthèse. Ça vous intéresse aussi. Est-ce que vous pourriez faire une composition, j'allais dire, qui soit plus sur le plan social ou politique, voilà.
Peut-être.
Il n'y a pas de parole, donc c'est pas.
Pour moi, l'affaire, c'est que pour moi, la musique, c'est vraiment un échappatoire de tout ça.
Bien sûr.
Donc, je sais. Peut-être, je dis pas non, on ne sait jamais, mais il faudrait que je trouve un angle qui fait pour que ça. Ce qui fait que j'ai cherché un côté qui va m'inspirer puis qui va être comme.
Oui, oui, mais ça, je pense que c'est tout à fait possible. Et puis, il n'y a pas donné d'autres explications. Mais je veux dire, vous auriez tout d'un coup un titre moi, je verrais sortir un titre qui s'appelle Thunder ou Storm, etc.
Uh-huh.
Je comprendrais ou je me dirais, il y a probablement autre chose derrière.
Qui se cache derrière. Oui, tout à fait. Tout à fait.
C'est ça que je trouve, qu'on peut trouver intéressant, surtout que. Faites parler d'une génération qui est quand même très concernée par tout ça, et qu'il y a un moment donné où, avec votre instrument, avec votre sensibilité, vous pouvez et vous pourrez, je pense, le traduire très bien. Quoi.
Tout à fait. Puis c'est vrai aussi que vu que c'est de la musique instrumentale, ça permet de, des fois même, d'exprimer des choses qui sont un peu plus qui serait difficile à défendre en chanson disons, mais ça l'abstraction permet peut-être plus de
bah disons que c'est plus subtil où on le ressent pas. Après il y a pour chanter les révolutions, les révoltes, etc., on a ce qu'il faut, quoi, je veux dire, aussi bien chez vous que chez nous. Il y en a qui s'en cachent pas, et je trouve que c'est souvent très bien d'ailleurs, parce que faut vraiment secouer le cocotier, quoi, mais bon.
Ouais.
Donc, alors, il nous reste 3 minutes, je remets qu'on écoute un dernier morceau, c'est le 10. Bon, on peut peut-être, je sais plus, il est très court, hein. On peut peut-être.
Il y a de Moon de Sun.
Il fait 2:21. On va se quitter avec. On a encore 1 minute pour parler. Qu'est-ce que vous voudriez dire qui n'a pas été dit là? On se reverra, mais je veux dire, est-ce que.
Oui, je pense que cet album-là. Il y a une chose. Je sais, pour conclure, c'est difficile.
Non, mais pour conclure, c'est momentané, mais je veux dire.
Oui, oui. Ben, il y a une chose que j'ai pensé tantôt, c'est cet album-là a été vraiment composé. J'ai suivi un genre de mantra parce que au départ du processus de création, je me suis demandé, parce que moi j'adore, je suis une grande fan de classiques de Chopin, Rachmaninov, etc. Puis je me suis demandé qu'est-ce qui fait que cette musique-là, pour nous, on dirait qu'elle a jamais existé. On dirait qu'elle a toujours existé. Ouais. On oublie qu'il y a un humain qui l'a écrit. Ouais, oui. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait ça? Puis là, je me suis dit, c'est que on pourrait pas enlever une seule note ou changer une seule note sans que ça change l'essence de cette musique-là.
C'est ça.
Et ça a été mon mantra. Et okay. Donc, très long.
OK. On va se quitter, mais momentanément, parce qu'on se reverra, Jean-Cyan. Ça s'appelle Walls Made of Glass. On peut se procurer l'album absolument partout. On peut aller l'écouter sur plein de sites. Je vous
oui, tout à fait.
Recommande absolument de le faire. Je vous en reparlerai. On va suivre, nous, les dates de tournée, même si c'est dans un moment.
Oui, on va sûrement être de retour l'an
France,
prochain.
En France, en Europe. Oui. Et ça va être un vrai bonheur. Donc, vous reviendrez à cette place-là.
Il y a aussi, vous pouvez suivre mon Instagram, Jean-Cyan MJ, puis j'ai mon site web et tout ça. Donc, toute l'information va être là-dessus.
Il n'y a pas de souci. À très bientôt. Merci infiniment parce que c'est un album magnifique. Vous êtes une musicienne tout à fait à part, tout à fait extraordinaire. C'est un bonheur et un plaisir et une richesse d'écouter vos compositions. On se quitte avec Épilogue.
Merci beaucoup.
Sur Empreinte et IDFM, on referme notre magazine et on donne tout de suite la parole à notre amie Agnès qui a été voir les règles du savoir-vivre de Jean-Luc Lagarce au théâtre. Et donc on écoute son interview de Muriel Mayette. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Merci Francky.
Alexandre, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je reçois Catherine Yégel, immense comédienne. Bonjour, Catherine Yégel.
Bonjour.
Extraordinaire carrière, 56 ans de théâtre, la Comédie française pendant 40 ans, un Molière dans 2011. Donc, très heureuse de vous interviewer hein, pour parler de ce seul en scène, les règles du savoir-vivre dans la société moderne. Seul en scène que vous jouez actuellement au théâtre du Petit Saint-Martin à Paris. Alors c'est un texte de Jean-Luc Lagarce, un texte pour une comédienne écrit en 1994. Alors ce texte s'inspire d'une œuvre, d'un ouvrage paru fin 19e, hein, 1890. Écrit par une baronne.
Qui n'était pas baronne.
Une fausse baronne. Et qui parle de savoir-vivre. Alors justement, Jean-Luc Lagarce a voulu faire une parodie des écrits de cette fausse baronne. Il traite de manière caustique, ironique de certains cérémoniels comme les fiançailles, les secondes noces, le baptême. Alors Catherine Yégel, dans ce seul en scène, vous êtes une baronne ou une conférencière ?
Une conférencière plutôt, pas une baronne, enfin je crois pas. Ou alors je suis autant baronne que la baronne Staff. Oui, une conférencière, voilà. Et on part les règles, enfin le montage qu'on a, parce qu'il n'a pas pris toutes les règles de la baronne Staff. Interminable, parce qu'elle établit même des règles pour les farces du 1er avril, c'est vous dire jusqu'où ça pouvait aller. C'est toujours édité, hein, les règles de la baronne, toujours. Il y a toujours une clientèle pour acheter ça, et sans second degré. Et donc ces règles-là, dans le spectacle, partent de la naissance à la mort. C'est-à-dire aux règles du deuil et des enterrements.
Alors, qu'est-ce que Jean-Luc Lagarce a voulu nous dire en reprenant ce texte qui est quand même très traditionnel ?
Non, il ne l'est pas, justement. Le texte de la baronne, oui, mais celui de Jean-Luc Lagarce, non. Je pense qu'il a voulu donner un grand coup de pied ironique dans cette espèce de mentalité qui perdure, d'ailleurs, d'une certaine bourgeoisie.
Est-ce qu'il a voulu nous parler des us et coutumes, ou alors est-ce qu'il a voulu plutôt les tourner en ridicule avec son texte, justement?
Je pense les tourner en ridicule, ou en tout cas les prendre avec dérision, parce qu'il y a de quoi. Il y a de quoi.
Mais c'est vraiment...
Moi, je suis une femme un peu âgée, et j'ai connu ça à l'école, on nous expliquait qu'on devait apprendre la couture, la cuisine, quand j'étais petite, et qu'on devait devenir de bonnes épouses. Je pense que ça, par exemple, c'est terminé, mais pas à l'intérieur des règles de la baronne Staff, et à l'intérieur de certaines mentalités encore aujourd'hui.
Alors, comment en êtes-vous arrivé à ce texte ? Est-ce que c'est le metteur en scène, Martial Di Fonzobo, qui vous a...
Non, c'est Vincent de Dienne, qui est un ami, qui m'a dit « Lis ça, c'est fait pour toi », je l'ai lu, j'ai trouvé ça très drôle, et j'ai demandé à Martial, avec qui j'avais déjà travaillé plusieurs fois, s'il voulait bien le mettre en scène. Et d'ailleurs, je tiens à signaler, parce que vous n'en parlez pas, mais je ne joue pas que ça. Je joue en alternance de la Garce, également musical, mis en scène également par Martial Di Fonzobo.
Dans le même théâtre.
Dans le même théâtre, c'est-à-dire trois soirs l'un, trois soirs l'autre.
Donc là, vous jouez à 21h, hein ?
Là, ce soir, mais il y a des semaines où c'est à 19h. Il y a une alternance, et des textes, et des horaires.
Et donc vous avez lu ce texte, et il vous a tout de suite séduit finalement par son côté... caustique, très ironique.
Et même par son insolence. Et j'aime assez ça. Et je trouve que c'est une vertu nécessaire.
Alors, la pièce démarre sur la naissance.
Oui.
Bon, ça, est-ce que ce texte-là, que vous nous dites, quand on dit qu'on doit déclarer un bébé mort, en fait, on doit déclarer sa naissance, est-ce que c'était dans le texte de cette baronne ?
Oui. Oui, toutes les étapes le sont, sauf que Il a pris parfois intégralement des passages, sauf qu'il y ajoute sa patte avec sa dérision, quand il ajoute n'importe qui, des choses comme ça. Il ajoute quelques bêtises pour faire déraper le sens.
Il y a,
et montrer sa sottise.
Alors, il y a évidemment plusieurs éléments, hein, de toutes ces règles. Je pense notamment aux parrains, au choix des parrains qui doivent répondre scrupuleusement à certains critères.
Si on regarde bien toutes les règles, au fond, ça ne parle que d'argent. Ça ne parle que d'argent. Si on parle des parrains, il faut trouver des parrains fortunés. Et pas trop vieux. Ça ne parle que pour les fiançailles. Il faut se renseigner sur la situation sociale et financière des familles. Sur le mariage, pareil. Sur les remariages, pareil. Ça ne parle que d'argent.
Oui, comme si finalement la vie était une espèce d'éternel recommencement. On se met dans des cases, on répond à ces cases sans savoir si on est heureux.
Je crois pas que ça parle de bonheur. Non, je crois pas. Non, je crois que ça vient dénoncer des règlements qui perdurent, croyez-moi, ça perdure.
Ah ben, on est dans des cases, hein, bien souvent.
Non, mais ça perdure. Les femmes le sont beaucoup, ça perdure. Ça perdure. Et je trouve que c'est bien de s'amuser à s'en moquer.
Alors, la mise en scène, parlons un peu de la mise en scène. Le spectacle est assez court, hein, une heure.
Oui.
J'ajoute que vous l'aviez déjà joué juste en 2021. Hein, vous aviez...
J'ai joué déjà ici.
Oui.
Et on l'avait créé au Festival d'Angers. Et j'ai joué et créé à Caen, que dirige Marcel Difonso pour le Théâtre National de Caen. Et ensuite, on l'a repris ici l'année dernière.
Donc, c'est votre premier, finalement, seul en scène.
Oui.
Quasiment, on peut dire ça.
Non, pas quasiment, certainement.
En 50 ans de... Plus de 50 ans de carrière, c'est 40 ans de...
Il n'y a pas beaucoup de seul en scène pour femmes, hein, à part les femmes qui font du one-man show, enfin, du one-woman show, et qui s'écrivent elles-mêmes leurs textes. Voilà, si on pense, je sais pas, à Foresti, à Muriel Robin, à toutes, c'est elles qui écrivent leurs textes, mais il n'y a pas de seule en scène dans le répertoire pour femmes. Il n'y en a pas. À part celui-là.
Quelles indications vous a donné le metteur en scène par rapport au texte de Lagarce? C'est ce qu'il vous a dit, vous le jouez d'une manière plutôt austère, plutôt. Très...
Bah, le texte très parle comique. De lui-même, hein. Et le comique il est issu de l'absurdité des règles, donc là ça a été assez facile, et on s'est attaché avec un dispositif très simple de garder le côté conférencière et en même temps de pouvoir s'en libérer, les deux.
Trois tables roulantes, voilà. D'ailleurs, trois tables assez modernes.
C'est très simple.
Vous avec une collerette blanche.
Oui, bah, comme une dame un peu respectable. C'est ça que ça signifie, mais voilà. C'est ce qui est surtout important, c'est le second degré qu'il y a chez Lagarce et que je peux peut-être essayer de transmettre.
Le spectacle vient de reprendre, hein.
Oui.
C'était la première hier, enfin.
Il y a une semaine.
Voilà. Et donc le spectacle se joue à 21h.
Là, ce soir, mais la semaine prochaine, il sera de nouveau à 19h et puis l'autre semaine à 21h. Vous voyez, il y a l'alternance des deux spectacles musicals de Lagarce aussi et des règles de savoir-vivre et l'alternance des horaires. Il y a une semaine à 19h et l'autre semaine à 21h et ainsi de suite.
Donc nos auditeurs peuvent regarder sur le site.
Voilà. Ils ne se tromperont pas.
Hein, sur le site du théâtre du
petit, oui.
Du petit Saint-Martin.
Oui, ils peuvent faire ça.
Alors, on parle donc de toutes ces règles de vie, de toutes ces traditions. Je suppose que vous, on vous connaît, hein, Catherine Nigel. Toute règle pour vous toute règle, on va dire, la plupart des règles pour vous sont finalement obscènes. Enfin, je veux dire, dérangeantes.
À partir du moment où elles contraignent un être, oui. Enfin, sauf, enfin, attendez, parce qu'on ne va pas rentrer dans un grand débat. Il y a des règles qui s'apparentent à l'humanité, quand même. Aider quelqu'un qui meurt, aider quelqu'un qui a un malaise, avoir un regard sur les autres, participer à aider les autres, voilà. Ça, ce sont des règles morales, mais non pas des règles... de bonne conduite.
Oui.
La bonne conduite, ça peut vite devenir, encore une fois. Et je les ai connus, moi, jeune. Hein. Je les ai connus. À l'école.
Alors,
heureusement, pas dans ma famille.
C'est peut-être pour ça que ce texte vous a d'autant plus touché.
Bah, oui, puis encore une fois, on est actuellement dans une période qui ressemble un petit peu à une période rétrograde. C'est vrai que l'année dernière, avec l'ascension d'Éric Zemmour, qui heureusement est redescendu, quand il interdisait, qu'il trouvait obscène qu'une famille donne un prénom qui ne soit pas catholique et français à un enfant, voilà, c'était pas censuré ses propos. Tandis que là, au contraire, moi je cite un long moment tous les saints et saintes du calendrier, et croyez-moi, il y a de quoi rigoler.
Oui, il y a des noms vraiment très sophistiqués.
Absurde, oui.
Oui.
Importable.
D'ailleurs, ces prénoms-là.
Voulez-vous vous appeler Miburge? C'est un prénom féminin. Ou Ours. C'est un prénom masculin. Pas facile à porter, non?
Ours.
Ours, oui, comme un ours.
Et ces prénoms-là étaient dans le...
Sont toujours. Parce qu'on a vérifié avec Marcel. On s'est dit, c'est pas possible. C'est la Garce qui les a inventés. Ils sont tellement absurdes. Et non, ils sont tous dans le calendrier des saints.
Et alors, ce fameux livre qui est paru en 1889, Les règles du savoir-vivre, par cette baronne, oui. Il paraît qu'il s'est vendu...
Mais il se vend toujours.
À beaucoup d'exemplaires.
Parce que moi, j'ai voulu me le procurer. J'ai cru que j'allais devoir faire une recherche, etc. Il est toujours édité. Donc, il y a des gens qui l'achètent. C'est confondant, c'est attristant, c'est parfois angoissant, ça dépend de mon moral, mais il y a des gens qui l'achètent. Cette baronne elle-même qui donne des conseils pour tout, pour l'éducation, pour les fiançailles, pour le mariage, elle ne s'est jamais mariée. Elle a vécu vieille fille dans un pavillon de banlieue toute sa vie.
Eh bien, on voit que c'était quasiment un best-seller pour l'époque. Hein.
Complètement, oui, sous Napoléon III, voilà, la grande bourgeoisie achetait ça et le donnait à lire à leurs enfants.
Voilà.
Surtout à leurs filles. Surtout à leurs filles.
Eh oui. Merci beaucoup, Catherine Michel. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Donc, je rappelle les deux spectacles dans lesquels vous jouez actuellement, Les règles du savoir-vivre de Jean-Luc Lagarce au théâtre du Petit Saint-Martin à 21h. Et l'autre pièce, Music Hall.
De Jean-Luc Lagarce.
Voilà.
Au Petit Saint-Martin, à 21h ou à 19h. Ça dépend des semaines.
Très bien.
Il suffit de regarder sur Internet ou je sais pas où.
Merci beaucoup. Donc,
c'est
si
moi.
On veut une bonne tranche de rigolade, j'ai envie de dire, et de piment dans notre vie. Voilà, chers auditeurs, allez voir cette pièce donc au théâtre du Petit Saint-Martin avec Catherine Yégel. Merci.
Merci à vous.
IDFM 98 FM, la plus francilienne des radios.
La plus francilienne des radios.
Sur 98 FM.